Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Ou bien, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles.
Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit.
Comme ça? Qu'est-ce qui est plus drôle, en dame ou...
Comme ça vous amuse le plus vous, c'est ce qui nous amusera le plus nous. Alors.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Elle pleure pas là.
Mais pas assez, oui.
Il y a de la joie,
Il faudrait le trouver.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit. Oh mon bon monsieur, si vous saviez, il y a de la joie. Il y a du soleil dans les ruelles. Oh, il y a de la joie partout. Oh Dieu, il y a de la joie.
Hein? Comme ça?
Daniel Nevers, vous êtes directeur artistique de Collection de Disques, vous êtes discophile, discophage,
ouais.
Discovore, écrivain et fan de Charles Trenet, auteur de l'intégrale Trenet chez Frémaux et Associés. D'où vient votre passion pour Trenet ?
Du jazz. Du jazz, puisque c'est d'abord en priorité la musique qui m'intéresse, et donc par glissement successif, les chanteurs, les chanteuses aussi d'ailleurs, qui ont été influencés par le jazz, que ce soit les Français ou pas d'ailleurs, m'intéressent. Donc Trenet fait partie des premiers. C'est peut-être pas tout à fait le premier, mais enfin c'en est un tout de même des débuts. Lui c'est l'époque swing carrément.
Alors oui, justement, parlons de Trenet, du swing et du jazz chez Trenet. C'est quel jazz ?
Oh, c'est évidemment lui, ses débuts. Ceci se situe dans les années 1930. Et ça se poursuit évidemment dans les années 40. Donc ça serait plutôt l'époque swing. L'époque du roi du jazz, genre Benny Goodman, mais aussi du côté noir, Basie ou Ellington, sans parler d'Armstrong qu'il aimait beaucoup. Armstrong, ça, c'est déjà un petit peu plus ancien, c'est déjà un peu. Ça sonne d'une autre manière. C'est plus les années 1920 et 30, mais ça continue évidemment. Donc, c'est pour ce qui est de Trenet, ça vient de la... Il y a quand même aussi, justement, le côté jazz de Trenet. C'est la musique, bien entendu, puisqu'il est compositeur, mais c'est aussi les paroles. La manière, peut-être pas pour toutes les chansons, surtout celles qui sont venues plus tard, mais les toutes premières, avec les allitérations, tout ce genre de choses, ça peut faire penser au scat, à des choses comme ça.
Des billes de lait, des billes de l'eau.
Oui, par exemple, ou Pigeon vol, des chansons de ce genre-là. Avec des jeux de mots, des choses très légères, très bien faites. Il n'est pas le premier, il y en a d'autres avant lui-même. On peut penser, d'ailleurs, c'est un peu la même famille. Mireille Jeannohain, Jean Tranchant, Jean Sablon, son complice Johnny S, avec qui il a fait ses débuts dans un numéro de duettiste, Charles et Johnny. Tous ces gens-là se reconnaissent, se recoupent.
Trenet qui, comme Jean Sablon, a joué avec Django Reinhardt.
Pas beaucoup. Sablon, beaucoup plus.
Sablon a tourné avec Django.
Il a tourné.
Charles Trenet a enregistré.
Un seul titre. Un seul titre. Il y en avait peut-être d'autres de prévus, mais la séance qui est en début 41, au début de l'occupation, a été tellement laborieuse qu'ils n'ont pu faire que La Cigale et la Fourmi, dont les paroles d'ailleurs ne sont pas de lui. Chacun sait. Il y a un autre morceau qui a été enregistré ce jour-là, mais il n'est pas accompagné par Django. Il y a bien un Reinhardt dans l'orchestre, à la guitare, mais c'est Joseph, le petit frère. C'est un rien me fait chanter. Et comme il a, je suppose, jugé que c'était pas très bon, il n'est pas sorti, elle le dit, il n'est pas sorti. Là, il en a refait une autre version plus tard.
Alors comment parler de Charles Trenet ? C'est le poète de la jeunesse, du bonheur, de la joie de vivre, de la légèreté ?
Oui et non. Oui, en apparence, oui, à cause de, justement du rythme, du swing. Mais c'est aussi quelqu'un qui était, pensif, écorché. N'oubliez pas quand même que dans les premiers, et même dans la suite, il y a souvent des morts, des suicides. Dont je chante, par exemple. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo, mais c'est parce qu'il s'est pendu. Et la Javert des scaphandriers, qui date de 38, mais qu'il n'a enregistré que beaucoup plus tard, vous avez aussi des morts. Vous avez des, et, dans Miss Emily, c'est la même chose. Vous, il se suicide parce que la dame est anglaise, donc insupportable.
Eh oui, le fou chantant chanta aussi la mort, la solitude, la tristesse, mm-hmm. le chagrin, l'abandon.
Oui.
Des thèmes récurrents chez Trenet.
Oui, puis on en a d'autres plus tard, des choses qui sont peut-être un peu moins dans l'ambiance swing, comme Les gendarmes s'endorment sous la pluie, que lui-même n'a pas enregistré, mais qui était fait par les compagnons de la chanson, par exemple, où on a vraiment affaire à un tueur en série. Carrément un psychopathe.
Les gendarmes s'endorment sous la pluie dans un paysage de campagne. Les gendarmes s'endorment dans la nuit dans un paysage de montagne. Ils rêvent qu'ils deviennent brigadiers et que partout dans les villages toutes les filles émerveillées saluent leur brillant équipage. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Quel est l'assassin de la bergère? Les feuilles mortes dansent légères, c'est l'automne et tout le monde s'ennuie. Les gendarmes s'endorment sous la pluie. L'assassin, je le connais, c'est moi l'assassin de la bergère. Elle était trop jolie, ma foi, avec ses larmes mensongères. Elle était trop belle pour moi, moi, je suis Jean le valet de ferme. J'ai bien le temps avant qu'on m'enferme de chanter la chanson des bois. Oh, oh. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Pendant ce temps, il y a l'enquête. On le questionne, mais il est si bête, il ne dit rien et tout le monde s'ennuie. Les gendarmes s'endorment sous la pluie. Le vicaire arrive du hameau à cheval sur sa bicyclette. Le vicaire arrive du hameau à cheval sur son vieux vélo. Il dira la prière des enfants en oraison pour la bergère. Il fera des sermons pour les grands. J'ai peur de pleurer dans la prière. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Pendant ce temps, il y a l'enquête. C'est l'automne et les feuilles volettes. C'est l'hiver, la saison de l'oubli. Les gendarmes s'éloignent dans la nuit. Pom, 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 pom.
Alors Trenet, c'est un poète marqué par le swing, marqué par une légèreté, une apparente légèreté, mais c'est un homme d'une productivité absolument phénoménale.
Surtout à ses débuts, bien entendu. Et d'une productivité phénoménale qui donne naissance quand même à beaucoup de chefs-d'œuvre à ce moment-là. Par la suite, dans les années 50-60, ça starie un peu. Il continue à composer, à écrire. Mais les chansons sont d'abord moins surprenantes, bien sûr. Et de surcroît, on les retient. Si, bien sûr, il y a quelques chansons célèbres, genre Le Jardin extraordinaire, des choses comme ça. Mais c'est plus limité. À tel point d'ailleurs que, fin des années 50, début des années 60, son directeur artistique de l'époque, Jean-Paul Guittert, qui m'avait raconté tout ça, lui avait dit carrément, écoutez Charles, vos chansons actuelles sont pas terribles. Pourquoi est-ce que vous ne réenregistreriez pas des choses que vous avez déjà enregistrées avant, mais en stéréo, ou alors carrément des chansons plus anciennes que vous n'avez pas faites jusqu'ici. C'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, les versions stéréo, bien que stéréo, sont beaucoup moins bonnes que les anciennes.
Alors, on parlait de la productivité de Charles Trenet. On le crédite de quoi ? 1000 chansons ?
Je ne me suis jamais amusé à compter ça. C'est plutôt Henri Chenu ou Cabu qui tiennent une comptabilité de ce genre.
Alors, Cabu, on sait qui c'est. Henri Chenu, il faut peut-être préciser qui c'est.
Henri Chenu, c'est le trénétophile, trénétophage.
Trénétovore, on revient à nos...
Aujourd'hui, maintenant, il a 88 ans quand même. Et bon pied, bon oeil, je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps. Il m'a prêté des choses rares. On pensait que quand il serait en retraite, il travaillait à la météo, il serait peut-être le gardien du musée Trenet à Narbonne. Mais maintenant, je crois que l'âge le confine quand même plutôt dans la retraite. Mais enfin, il a énormément de choses. Beaucoup d'objets ayant soit appartenu à Trenet, et puis les disques, c'est assez étonnant et assez effroyable d'ailleurs.
À propos de la maison Trenet à Narbonne, vous y avez été ? Vous
non, l'avez visité ? Non. Ça fait des années que je ne suis pas allé dans cette ville et donc ça je ne l'ai pas vu.
Alors quand on parle de Trenet, allez, on le crédite, on va dire, d'un millier de chansons,
oui,
de quelques films ?
Oui, de quelques films.
Très enthousiasmant, où là, l'homme, le chanteur et sa légèreté sont véritablement mis en avant.
Ben, c'est-à-dire que ce sont des films dont il a souvent écrit lui-même le scénario, et autant son esprit passe très bien dans des chansons qui font dans les 3 minutes, et ça passe beaucoup moins bien quand il est devant une caméra dans un long métrage. En plus, ce sont des films, à l'exception de Adieu Léonard, qui ont été réalisés par des gens qui ne sont pas non plus des metteurs en scène extraordinaires. Christian Stingel qui a fait Je chante, des choses comme ça. C'est pas un mauvais, mais enfin c'est... disons, il est dans le dernier wagon du cinéma français de l'époque.
On peut s'étonner d'ailleurs que Jean Cocteau et Charles Trenet, qui était ami, ne se soit pas rencontré à travers le cinéma, justement.
Oui, peut-être, ça aurait pu. Encore que Cocteau a son monde bien à lui, dans lequel Trenet n'a peut-être pas une énorme place. Il a un monde qui est beaucoup basé sur la mythologie, qu'il retravaille à sa manière. Et Trenet était un peu loin de tout ça. Mais enfin, effectivement, ils auraient pu faire des choses ensemble. Il y a eu aussi une tentative avec Guitry, mais qui n'a pas eu de suite.
Daniel Nevers, vous avez lu Charles Trenet, l'écrivain ?
Oui, j'ai lu quelques-uns de ses textes, bien entendu, Dodo Manière, celui dans lequel justement il parle d'Armstrong, et d'autres textes, aussi des textes aussi biographiques, autobiographiques, des choses de ce genre, oui. Un noir éclatant, des choses comme ça. Oui, j'en ai lu quand même pas mal. Mais je préfère quand même en chanson. C'est d'abord la chanson.
Et le peintre ?
Le peintre, c'est... Je n'ai pas vu grand-chose en vrai de lui. Je n'ai vu que des reproductions. Donc je peux difficilement en parler. Mais enfin, c'est quelqu'un qui avait du talent dans ce domaine-là aussi. Comme Django Reinhardt avait du talent comme peintre. Même si on le préfère guitariste.
Alors, attaché à Charles Trenet, quelques histoires sulfureuses. Mm-hmm. Peut-être on pourrait tordre le cou à certaines de ces histoires sulfureuses, parce qu'il y a beaucoup de clichés attachés à la légende Trenet.
Bah oui, il y a l'homosexualité qui aujourd'hui ça se calme pas tellement. Finalement, l'homophobie est toujours de mise, mais il est bien évident que dans les années 30-40, il pouvait pas lui-même en parler. Ça se savait, bien entendu. Il s'en cachait pas non plus, mais enfin, ça n'était pas une...
Comment le chantait-il, l'homosexualité, Charles Trenet ?
Bon, ces chansons, quand ce sont des chansons d'amour, on a du mal à penser, à savoir s'il pense à un homme ou à une femme. Bonsoir, jolie madame, ou que reste-t-il de nos amours ? Ça peut très bien être un monsieur, mais ça peut très bien être une dame aussi.
Il n'y a pas de clé, justement ?
Il y en a quelquefois. mais plutôt dans les chansons humoristiques, genre à la porte du garage, des choses comme ça, où il y a des jeux de mots, mais il faut les connaître.
Alors pour parler de Charles Trenet, on est obligé de parler des années de guerre également, et puis de sa retraite. Ensuite, c'est 3 ans où il fuit la France. Alors racontez-nous un peu cet épisode. Et ce qu'on en sait.
Pendant la guerre, on ne faisait pas tellement la guerre. La guerre, il l'a faite brièvement comme beaucoup de gens, c'est-à-dire 39-40, et puis après, c'est l'occupation. Alors pendant la guerre, il était mobilisé, comme beaucoup de gens, beaucoup d'hommes. Dans l'aviation, puisqu'il avait fait son service militaire dans l'aviation, justement. Donc on l'avait recollé dans ce même contexte. Et après, il a été démobilisé, et il a repris sa carrière. Sans doute, on en a fait quelquefois un collaborateur. Parce que, bien sûr, il a tourné des films, il a donné des spectacles. Mais enfin, comme
Edith Piaf, comme
beaucoup. Il ne faut pas oublier que c'était des gens, souvent des, pas tous, mais souvent des cigales. Donc des gens, même quand ils gagnaient bien leur vie, l'argent partait aussi rapidement. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de travailler, comme tout le monde. Simplement, je crois que c'est Andrex, le fantaisiste, qui était lui aussi chanteur, qui disait, nous, évidemment, notre métier, c'est d'être devant les gens. Sur scène, ou au cinéma, ou à la radio, ou sur disque. Alors évidemment, on est beaucoup plus repérable que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus collaborateur que d'autres.
Tu viens chanter, malgré l'orage, à ce balcon qui reste sous. Mais ton ami est en voyage. Pauvre swing troubadour, elle est partie, changement d'adresse, et j'ai repris l'appartement. Et c'est à moi que tu t'adresses, tu n'as pas de chance vraiment. Swing troubadour, ton destin, swing troubadour. C'est de chanter le bonheur, même si ton petit cœur est bien lourd. Swing troubadour, rien pour toi ne peut t'effacer les beaux jours du passé, même si dans ta voix y a de la joie. Quand tu souris, tout comme toi, je pleure en secret. Un rêve chéri, un amour timide, discret. Moi, je n'ai plus rien, mais comme toi, je chante pour mon bien. La plus belle des chansons d'amour, swing troubadour. C'est fini, plus de promenade, plus de printemps, swing troubadour. Elle est finie ta sérénade, tu vas quitter le faubourg. Comme j'ai quitté, jadis moi-même, le vieux quartier triste et charmant, de mes amours un peu bohèmes, qui changeaient trop de logement. Oh swing troubadour, ton destin, swing troubadour. Et de chanter le bonheur, même si ton petit cœur est bien lourd. Swing, swing troubadour, t'en fais pas, les beaux jours passés reviendront simplement un beau soir, et sans même y penser. Pleure pas mon vieux, tu vivras et tu verras mieux. Le petit cœur qui se donne sur la route du bonheur. Moi, je n'ai plus rien, mais tant pis, chantons plein d'entrain la plus belle des chansons d'amour, swing troubadour.
Y a-t-il des idées reçues auxquelles vous voudriez tordre le cou, Daniel Levert ?
Oui, il y a quelques idées reçues. En fait, il y a des choses qui sont exactes, mais qui sont incomplètes. Par exemple, quand il est revenu de la zone sud, fin 40, début 41, il a repris ses activités, il a recommencé à faire des disques. C'est à ce moment-là que se situe d'ailleurs la seule face avec Django Reinhardt. Disons qu'à ce moment-là, y a eu une campagne assez haineuse contre lui, une campagne de presse. C'était à l'époque que... Bon, moi, j'étais pas né, hein. Mais à cette époque-là, tout le monde était le juif de quelqu'un. Et lui, traînait, on disait que son nom était l'anagramme de Netter, qui est un nom à consonance juive, ce qui est faux. Il a été obligé de faire des recherches sur la famille, sur les ancêtres, donc dans le sud, du coup, à Narbonne et dans ce coin-là, puisqu'il est originaire de cette région, pour prouver son arianité. Alors là, ça c'est tout à fait juste, mais ce que peu de gens savent, c'est que dans un journal aussi collaborationniste que Je suis partout, en 41, lorsqu'il a fait sa rentrée, justement, c'était ce journaliste très collabo qui s'appelait Lobro, Alain Lobro, qui d'ailleurs avait traîné Cocteau dans la boue pour des faits d'homosexualité, et Jean Marais l'avait giflé en public. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film de Truffaut, Le Dernier Métro. Là, c'est Depardieu qui joue le rôle. Et Lobro, par contre, était un fou de traîner. Et à longueur de colonne, il n'arrête pas d'en dire le plus grand bien sur ses nouvelles chansons, sur tout. Donc, et ça, on ne le dit pas. Alors, il faut quand même aussi faire la part des choses. C'est entendu, on l'a traité de... On a essayé de le coincer comme juif, mais il n'est pas le seul, hein. Il y en a plein d'autres qui, d'ailleurs, n'étaient pas plus juifs que lui, qu'on a aussi essayé de fourrer dans ce guépier.
En écrivant le livret de l'intégrale Charles Trenet chez Frémaux et Associés, qu'avez-vous découvert, Daniel Nevers ?
Bon, pas mal de choses quand même. C'est difficile à dire comme ça, qu'est-ce que j'ai pu découvrir ?
Des chansons que,
oui, certaines chansons
qui étaient passées peut-être un petit peu à la trappe et que vous avez envie de nous faire partager.
Oui, quelques chansons, pas dans les anciennes. Les anciennes, je connaissais à peu près toutes, du moins celles qu'il avait enregistrées. Car il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il en a écrit beaucoup d'autres, qu'il chantait en public, pour certaines en tout cas, mais qu'il n'a pas enregistré ou qu'il n'a enregistré que 30 ans ou 35 ans plus tard. Donc celle-là, je les connaissais jusqu'à La Mer, jusqu'à L'âme des poètes, ça va. C'est plutôt dans la période 50-60 où on trouve des chansons qui sont quelquefois très belles, mais qui n'ont absolument pas marché. Là, il y en a quelques-unes.
Alors Trenet a été chanté également.
Ah oui, bien sûr. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'intégrale, contrairement à d'autres, par exemple l'intégrale de Django Reinhardt, où je n'ai mis que des choses avec Django, sauf de temps en temps une petite bricole pour bien fixer les idées, parce que souvent on disait il y a peut-être Django là-dedans, mais on le sait pas parce que le disque est très rare. Quand j'ai eu la chance de le trouver, je me suis aperçu qu'il n'y avait même pas de guitare, et j'en ai mis au moins un pour prouver que ça n'était pas juste. Mais la plupart du temps, je n'ai mis que des choses où la présence de Django est avérée. Alors que dans l'intégrale Trenet, je me suis amusé à mettre, parce que c'était pas la peine de faire la même intégrale que les autres. C'est pas la peine dans ce cas-là. Je me suis amusé à mettre des interprétations différentes de certaines chansons, voire même des choses que lui-même, bien qu'en étant l'auteur, n'a jamais enregistrées. Je pense à un truc de 1942 qui s'intitule Maman Bouquet, qui a été enregistré par René E. Lamy, qui était sa filleule de la chanson, ça, c'est une tradition à l'époque. Et c'est assez marrant parce que c'est une chanson un petit peu à la mode des chansons mélodramatiques des années 20 et 30. Genre Les Roses Blanches ou choses que chantaient Berthe Silva et quelques autres du même genre. Mais là, lui l'a fait ironiquement. Mais la chanteuse ne chante pas ironiquement, c'est ça qui est amusant.
Il y a des chansons à histoire ou des histoires de chansons, la mer, par exemple.
Oui. On ne saura jamais vraiment comment ça s'est passé. Il est probable qu'il disait lui-même qu'il avait eu l'idée de cette chanson dans un train pendant l'occupation, là encore en 43, quelque chose comme ça, qu'il menait d'un endroit sur la côte entre, je sais pas, peut-être Nice et Montpellier, et il longeait des quelquefois la mer, bien sûr, mais quelquefois aussi des étangs, genre étang de Thau, et que ça lui serait venu comme ça, et cette chanson n'a pas bien marché. Le public ne l'appréciait pas beaucoup. On l'applaudissait du bout des doigts. Donc il avait décidé de plus ou moins de la supprimer de son répertoire. Et puis lorsque son éditeur Raoul Breton est rentré d'exil, il lui a demandé ce qu'il avait de nouveau. Il a dit lui a dit, j'en ai une là, mais elle ne marche pas. Il a chanté La Mer, accompagné par Albert Lasserie au piano. Et Breton lui a dit, mais au contraire, elle est très bien, mais elle est un peu longue. Et du coup, je pense qu'il a, paraît-il, coupé un couplet. Et il l'a enregistré en mars 1946. Le disque est de très mauvaise qualité. La prise de son est mauvaise. Et l'autre face, c'est encore pire. Seul depuis toujours. C'est pratiquement inaudible. Et Trenet, quand on lui a fait entendre les tests, a dit pas question de sortir ça, on le refera. Et puis après, il est parti en Amérique. Et comme la maison ne pouvait pas attendre, eh ben, ils les ont sortis quand même. Il a été, paraît-il, furieux. Mais le disque se vendait vraiment très bien. Cela dit, il n'est pas le premier à l'avoir enregistré. Son copain, Roland Gerbeau, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, l'année dernière, en 2012.
Dans l'anonymat, quasiment.
Quasiment.
Alors que c'était une vedette.
Eh oui, il l'avait enregistré avant. Il y a eu aussi Marianne Michel qui l'avait enregistré avant. Et je ne sais plus qui encore. Un orchestre où on chantait juste un refrain.
Et qu'est-ce qui a déclenché la folie sur cette chanson?
Je sais pas,
c'est... Une des chansons dans le monde, française, les plus connues, oui. Et les plus jouées.
Ça fait penser aux Feuilles mortes, qui n'avaient pas beaucoup marché non plus, et qui est devenu un tube partout, y compris chez les musiciens de jazz américains et autres. On ne sait pas très bien, il y a un déclic qui doit se produire à un certain moment.
Il y a d'autres chansons de traîner avec de jolies histoires attachées?
Oh oui, il y a aussi La Folle Complainte, même chose, qui est personnellement l'une de mes préférées. Et qui date aussi de cette époque. Et là encore, il a attendu, je crois, je ne sais plus exactement, 48 ou 49, pour l'enregistrer. Et ça aussi, ça a eu des difficultés à démarrer. Mais ça n'a d'ailleurs jamais complètement démarré. Sinon, il y a eu des histoires marrantes aussi avec L'Âme des Poètes. L'Âme des Poètes, c'est une chanson, il ne savait pas vraiment très bien comment la traiter. Alors j'ai eu la chance de retrouver des essais qu'il avait fait dans un studio, dans une église qui avait été transformée en studio à Québec. Et ça lui servait à lui et aussi d'ailleurs à des gens de là-bas, notamment la chanteuse qui se faisait appeler Aglaé, qu'il avait essayé de ramener en France. Et qui a fini par épouser Pierre Roche, le copain d'Aznavour. Et il avait fait des essais, alors a cappella, avec un accompagnement de piano, et il n'était jamais content. Ce qui fait que le jour où il a enregistré ça, début 51 à Paris, ça s'est passé un dimanche en plus, ce qui était rare, les séances d'enregistrement, mais peut-être qu'il devait partir. Ce qui fait qu'il avait demandé des tas de musiciens, à des tas de musiciens de venir en début d'après-midi. Et il y avait même Django Reinhardt, justement. Okay. Et il a essayé avec tout le monde et ça ne marchait pas. Le tromboniste.
Benny Vasseur.
Benny Vasseur qui me l'a raconté. Parce que lui-même était là aussi. Et il a dit il y avait des tas de gens, il faisait un essai avec un tel, avec telle petite formation. Et il n'était jamais content, jamais satisfait. Et en plus, comme c'était un dimanche, et qu'il y avait des dépassements, les musiciens, eux, n'étaient pas trop mécontents parce que ça leur rapportait un cachet beaucoup plus intéressant. Et puis ils ont tous fini par partir vers 7h du soir parce qu'ils devaient jouer. Sauf quelques-uns qui sont restés, le pianiste Norbert Glanzberg et justement Vasseur, Benny Vasseur. Et Benny Vasseur s'est amusé à taquiner une espèce d'instrument bizarre qui est un ancêtre du synthétiseur. Ça se pratique un peu de la même manière. L'autre s'est amusé un petit peu énervé à jouer dessus et à jouer même le thème, puisqu'ils le connaissaient tous par cœur. Et Trenet lui a dit, ne lâche pas cet instrument-là, c'est exactement ça que je veux. Et du coup, ils l'ont tourné en un quart d'heure, 20 minutes. Mais le soir, vers 11h minuit. Et ensuite, les trois autres chansons, car il y en avait quatre à enregistrer ce jour-là, ont été expédiées très rapidement. Et les musiciens partaient au fur et à mesure. Pour la quatrième, je ne sais plus le titre, mais il n'y a plus que le pianiste. Tout le monde est parti.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Que reste-t-il aujourd'hui de Charles Trenet? J'ai l'impression que c'est un chanteur un peu oublié aujourd'hui.
Bon, il y a quand même des gens comme Higelin qui... Oui, c'est sûr que c'est un petit peu en retrait. Mais est-ce que des chanteurs comme Brel, qui est beaucoup plus jeune, et qui d'ailleurs rendait hommage à Trenet, comme le faisait aussi Brassens, est-ce que Brel, qui est mort il y a quand même pas mal de temps aussi, lui, on me disait que les disques, ces disques, ne vendaient quasiment plus. Et pour Brassens, je ne sais pas, peut-être un peu mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a une... Pardon. J'ai l'impression que dans le monde actuel, il y a une coupure qui se produit dans les années 90. Et... les jeunes générations semblent complètement en dehors de tout ça. Ils ont peut-être encore quelques références du côté des gens du yéyé, mais et encore, si, Presley, bien sûr, les Beatles, oui, ou alors Johnny, mais c'est à peu près tout.
Il y a un message, Trenet ? Trenet est porteur d'un
bon,
message ?
Lui disait qu'il n'y en avait pas, mais en tant que poète, d'ailleurs on lui a aussi contesté le côté poétique. En tant que poète, sûrement, mais c'est comme c'est un. Comme il y a quand même un côté. Il y a un côté pessimiste, mais il est quand même battu en brèche par le côté optimiste. Et que dans notre société judéo-chrétienne, ma foi, la culpabilité joue beaucoup. On a tendance à dire pour des gens comme Trenet que, ma foi, oh, c'était bien, c'était sympathique, mais ça ne va pas plus loin, quoi. On est à genoux devant Léo Ferré, à juste titre sans doute d'ailleurs, mais parce que ça a un côté très triste, pas toujours d'ailleurs, mais quelqu'un comme Trenet, il met mal à l'aise un certain nombre de gens à cause d'un certain nombre de concepts. C'est assez bizarre.
Quand vous avez envie de surprendre, quelle chanson de Trenet vous passez à vos amis ?
Ben, je vais vous dire, je leur en passe pas beaucoup, parce qu'en général, ils les connaissent, donc...
Il y en a une que vous voudriez nous faire partager ?
Bon, oui, il semblerait que ce soit la plus célèbre, parce que la plus célèbre n'est pas la mère. La plus célèbre serait « Que reste-t-il de nos amours ?», qui a aussi été repris par des tas de gens un peu partout, et qu'on a aussi par les musiciens de jazz et d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. C'est une de mes préférées, puis la folle complainte. Et puis des choses comme « Je chante », bien sûr.
Il y a de la joie ?
Il y a de la joie, oui. Et puis même que... une chanson que je trouve alors vraiment surréalisante là pour le coup, que vous oubliez votre cheval, des choses comme ça.
Merci Daniel Nevers.
De rien.
D'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussée de bottes légères. Hier, dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'était les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, où les mémoires d'un jockey. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait des aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait écracher ta table tout en mâchonnant un mégot. Il y allait de son bavardage, il ne parlait que de cargo, de tempête et d'abordage. Mais les petits-enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient « Grand-père, ce beau pré, c'est-il la mer ou mes en Lafitte ? Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval. Vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire. Et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment t'as plutôt vous avez connu grand-mère. Comment t'as Paris le jour du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux mère. Vous n'êtes pas non plus un amiral. Vous oubliez votre cheval.